Et nous accueillons Bertrand au 3921. Bonsoir Bertrand.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous ?
Ça va.
Bon. Alors, dites-moi tout.
Bah écoutez, c'est le premier à qui je parle de mon souci. C'est quelque chose que je cache. Voilà, et bon, sous le sceau de l'anonymat, je me suis dit, j'écoute vos émissions, voilà, j'aime bien la façon dont vous faites attention aux gens, et voilà, j'ai hésité à appeler, puis je me suis décidé, voilà.
Vous cachez quelque chose, en fait.
Oui, ouais. C'est-à-dire que, alors, bon, j'ai eu Natacha, j'ai dit, je clochardise. Bon, c'est peut-être un mot fort, quoi, mais c'est vrai, je clochardise. J'ai un problème depuis quelques mois avec ça. C'est-à-dire que, bon, je suis pas à la rue, hein, j'ai du mal à me laver.
Oui.
J'ai du mal à ranger, il y en a partout, j'accumule et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Depuis combien de temps cela dure ?
Depuis quelques mois, c'est devenu, ça s'est aggravé, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a une raison particulière qui a déclenché tout cela ?
J'ai été aidant pour ma mère qui a la maladie à Corps de Lévy, enfin qui a une maladie dégénérative, et je m'en suis occupé pendant 3-4 ans. Quoi.
Oui.
Et elle a été hospitalisée il y a plusieurs mois, et là on a trouvé une EHPAD pour elle avec un service spécialisé. Et voilà, donc de ce côté-là, c'est comme ça, c'est la vie, hein, c'est sa maladie, c'est son âge. Oui. Mais moi, j'ai plus le souci du quotidien, mais pendant 3-4 ans.
Pendant 3-4 ans, vous avez accompagné votre maman.
Oui, voilà. 24 heures sur 24, quoi. Bon, oui. On avait des aides, des choses comme ça. Mais voilà, pense que je me suis mis de côté et j'ai pas pensé à moi, et la priorité c'était elle, et j'ai tenu, quoi.
Vous viviez avec elle avant qu'elle tombe malade, ou vous aviez...
Non, moi j'ai 63 ans, je suis parti vers l'âge de 20 ans.
D'accord.
J'ai habité Paris, elle est en Bretagne, et on venait, et puis elle était assez indépendante jusqu'à ce qu'elle... On est accordé, c'est pas grave. Moi j'ai vécu 20 ans en couple, j'ai pas toujours vécu avec elle, quoi.
D'accord.
Et là, quand elle est tombée malade, pendant longtemps j'ai fait la navette entre Paris et la Bretagne. Après j'avais l'opportunité de prendre une pré-retraite, ce que j'ai fait, ce qui n'était pas prévu, ce que j'ai fait, donc je suis resté auprès d'elle, quoi. Et son état était à peu près... c'était gérable encore, quoi.
Cela a été une décision lourde à prendre pour vous, déjà, de cette pré-retraite, pour vous occuper de votre mère ?
Non.
Non ?
Non. Non, parce que je voulais... C'était une opportunité, déjà, d'arrêter de travailler.
Ouais.
Ce qui n'était pas prévu, c'est qu'elle... moi, j'avais pris cette décision avant qu'elle soit gravement malade. Hein. C'était... Bon, j'étais content d'arrêter de travailler.
D'accord.
La vie était assez courte. Non, c'est pas ça.
Et lorsque vous dites que vous avez vécu 20 ans en couple, au moment où votre maman tombe malade, en fait, vous étiez séparés ?
Oui, ça faisait déjà 5-6 ans.
Oui.
C'était pas un problème. Hein. C'était séparé. C'était fini, quoi. Donc,
d'accord.
C'était séparé à l'amiable.
Et vous aviez des enfants ?
Non.
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 D'accord. Donc, en fait, vous avez changé radicalement de vie en venant vous occuper de votre mère.
Ah oui. Mm-hmm.
Vous avez tout lâché à Paris au bout d'un moment durant ces 3-4 ans? C'est-à-dire qu'au début, vous me dites que vous faisiez des allers-retours. Et...
Après, j'ai laissé mon appartement.
Oui.
Mais j'ai toujours. Enfin, c'est vrai que c'est, ma vie, elle était là. Enfin, mes amis, tout ça, sont là-bas, quoi. Donc, j'y retourne pour les vacances. Voilà, quoi. Mais non, j'ai tout lâché. Hein.
D'accord. Et donc, cette situation. De clochardisation,
sur le coup,
disiez...
j'y ai pas pensé. Ouais. J'y ai pas pensé parce que l'urgence c'était de s'occuper d'elle. Ça prenait toute ma place.
Quoi. Ouais, ouais.
Et moi, j'avais pas beaucoup de place et j'y pensais pas, quoi.
Mm-hmm. Mais vous l'avez formulé très clairement tout à l'heure. Vous êtes oublié pendant tout ce temps.
Ouais.
Et votre maman aujourd'hui donc est dans une EHPAD. Vous m'avez dit. Donc, on s'occupe bien d'elle, là-bas. Vous n'avez pas ce souci-là, en fait. Vous la trouvez bien, là-bas?
Ah non. Ça va. C'est... Ouais. Oui, il s'occupe bien d'elle. Après, son état s'aggrave, mais c'est des choses que je n'aurais pas pu faire à domicile.
D'accord.
Quoi. Et puis, j'ai une sœur hein, qui est aussi dans le... pas très loin, et on se relaie. Elle a même plus pris le relais là, que
d'accord.
Moi.
Aujourd'hui...
Elle se rend compte que ça va pas, enfin que ça va pas. Et le médecin, quand même, quand il a appuyé la demande pour lui trouver une place en EHPAD, parce que ça a été difficile hein, de trouver un établissement, ça a
oui.
duré plusieurs mois, quoi. Il avait quand même dit que ça devenait dangereux qu'elle reste à domicile et que le seul aidant qui était sur place, il a dit que j'étais en état d'asthénie. Quoi. Je ne connaissais pas ce mot-là. Voilà. C'est-à-dire fatigue, épuisement, et puis. En plus, je n'exprimais rien. Ce sont les infirmiers et les aides à domicile qui venaient, qui ont observé et qui ont fait le signalement, quoi.
Et
moi, je ne me rendais pas compte. Moi, il fallait que je tienne, hein. C'était tout, quoi.
Donc, vous avez dépensé beaucoup d'énergie à ce moment-là. Ça a été une débauche d'énergie.
Je pense. Enfin,
cet état-là que vous me décrivez, ouais. Bertrand, en fait, il dure depuis combien de mois, à peu près?
Ben, écoutez, moi, je ne me rendais pas compte, mais ça fait quand même... depuis, au départ, le fait qu'elle soit, quand elle était hospitalisée dans un service spécialisé, déjà pour moi c'était un peu une liberté parce que j'avais quand même un peu de journée à moi ou de nuit à moi pour,
oui.
Déjà pour dormir, pour de temps en temps faire des choses personnelles, quoi. Mais, je vais dire depuis février-mars, quoi.
Depuis février-mars, ouais. Donc à peu près 8 mois.
Oui, voilà.
D'accord. Et lorsque vous dites que vous ne rangez plus rien, vous ne vous occupez plus de vous déjà, vous ne vous lavez plus, mmh. vous ne rangez plus rien, tout s'entasse dans la maison?
C'est-à-dire que, elle habite un petit pavillon de ville. Hein. Donc déjà, il y a tous les souvenirs d'une vie qui sont... qui sont accumulés. Plus moi, mon déménagement, qui est au sous-sol, dans le garage, dans des cartons. Je suis venu chez elle. J'ai réintégré ma chambre d'adolescent qui n'avait pas changé. Hein, avec toujours les papiers peints, les choses. Et donc, mes affaires sont dans les cartons encore.
Et vous n'avez pas réussi, parce que là, Bertrand, comme sont parties les choses, votre maman va rester dans cette EHPAD.
Ah oui, elle reviendra.
D'accord.
Jamais.
Vous êtes en pré-retraite, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans le besoin, pécuniairement parlant.
Non.
D'accord. Peut-être qu'aujourd'hui, en fait, si vous avez tenu à me parler, c'est que cette situation, elle vous pèse et que vous n'arrivez pas à trouver le déclic ou l'énergie qui pourrait peut-être faire en sorte que ce cycle-là, vous l'interrompiez, vous en tout cas vous le brisiez. Vous en avez envie en m'appelant?
Si, de temps en temps, si, j'ai des sursauts. Je ne suis pas en permanence dans le Capharnaüm. Alors je me fais de temps en temps des petits post-it en disant demain, je fais le ménage, par exemple. Je commence par... c'est pas énorme, par les chambres, après je ferai les sanitaires, des choses comme ça, où je jette, parce que maintenant j'en suis au stade où je jette les choses qui ne serviront plus. Je ne faisais pas quand elle était là, mais là maintenant c'est ça.
Et vous avez du mal à jeter les choses qui ne serviront plus? Vous avez du mal, ouais. Mmh. Quel type de choses? Dites-moi.
Je ne sais pas par où commencer, mais...
Qu'est-ce que vous avez du mal à jeter, par exemple, dites-moi? Des choses qui lui ont appartenu? Tout?
Oui, là j'ai jeté des vêtements ordinaires, des jupes, des choses
qui ne lui serviront plus.
Après il y a des choses de plus du dessus que je garde encore au cas où, mais donc elle n'est pas jamais. Mais bon, je commence tout doucement et je commence à ressortir des choses à moi pour remplacer quoi. Mmh. C'est un peu, quoi.
Comment est-ce que j'essaie de un peu avant d'essayer de vous aiguiller, j'essaie de comprendre un peu dans quel état d'esprit vous vous trouvez. Comment est-ce que vous projetez? Si vous vous projetez, bien évidemment. Mais est-ce que vous arrivez...
Moi, je voudrais rester là.
Rester là, d'accord.
En priorité, je me dis, parce que avec tout ce qu'il y a, je n'ai pas envie de refaire un déménagement. Déjà, au moment de la séparation avec mon ami, le déménagement, ce n'était pas évident. On a jeté, comme ça. Quand je suis venu de Paris, ici, il a fallu écrémer encore. Au départ, c'était provisoire, et je t'ai dit, je vais venir là, oui. Je fais mon déménagement et je trouverai quelque chose à côté. Et les circonstances ont fait que je ne suis pas parti à côté
parce qu'elle avait besoin de vous.
Fallait être là tout le temps, ouais. À côté d'elle. Quoi.
Vous vous entendez
donc,
bien?
Moi, j'ai plus de chez moi depuis. Ça fait quand même quelques années. Quoi. Ouais.
Mais vous vous entendez bien avec votre sœur, là? Il n'y a aucun problème pour que vous restiez dans cette maison?
Oui. Non, la maison, non, ne m'intéresse pas.
D'accord. Est-ce que vous vous plaisez dans cette maison?
Oui. C'est pas énorme. C'est... Une fois que j'aurai resté le clair, vu les choses un peu au clair, pour le moment, j'ose pas trop faire des grands aménagements, mais là, j'ai commencé depuis quelques jours à jeter des choses qui encombrait du passé à mes parents, qui ne servaient plus, des choses...
J'entends, vous savez, Bertrand, vous allez me dire, mais moi j'entends comme une sorte de culpabilité de votre part, comme si vous vous excusiez à chaque fois que vous vous dites « j'ai jeté ci, j'ai jeté ça ». On sent qu'il y a y a une gêne à chaque fois à dire « j'ai jeté ci, j'ai jeté ça », mais vous savez, aujourd'hui, la vie... vous a amené là. Je pense que votre mère, même si elle a été très indépendante, a sûrement beaucoup apprécié votre volonté de vous occuper d'elle. En tout cas, elle a sûrement compris combien vous aviez été d'une utilité majeure pour elle là, pendant ces jours, ces dernières semaines passées à la maison. Et aujourd'hui, vous vous entendez bien avec votre sœur. Votre mère, je pense, aurait souhaité exaucer votre souhait à vous. Vous vous plaisez dans cette maison. Vous avez fait le choix de rester dans cette région. Si tout ça, avec tout ça, vous êtes OK, déjà, c'est déjà très, très bien et très fort. C'est un socle. Vous voyez, ça doit... vous servir de base, ça doit vous servir de fondation, de socle, c'est-à-dire cette décision d'être revenu ici et pour les raisons que vous avez évoquées, votre maman. Mais maintenant, cette maison, moi j'entends qu'elle est, elle est la vôtre, elle est devenue la vôtre. Et que quelque part, toutes ces choses qui encombrent cette maison aujourd'hui, y compris certaines affaires que vous avez en bas dans les cartons, eh bien, il faut que vous, vous fassiez un grand ménage dans tout ça. Et surtout, un grand ménage sans avoir la culpabilité de jeter, de vous séparer de... Vous savez, l'année dernière, j'ai fait deux émissions sur le minimalisme. Et je vous avoue que je ne m'étais jamais penché sur cette philosophie de vie, hein, parce que j'ai eu au téléphone, durant ces deux émissions, des témoignages de personnes très jusqu'au boutistes, hein, dans cette philosophie de vie. Mais finalement, elles m'ont vraiment conforté dans le fait que on a beaucoup de choses, on se sert de beaucoup de choses, mais on se sert peu de plein de choses, vous voyez.
Je m'en rends compte. Et c'est pour ça que je suis, quand je dis, enfin, je dis je clochardise, entre guillemets, mais quand même, non, je jette mes ordures, je... Voilà. Je suis, ça m'encombre, toutes ces choses qui sont à la fois à moi, en ouvrant les cartons, je retrouve, je dis, pourquoi j'ai gardé ça, que j'ai ramené de...
Ouais, mais souvent voilà, on s'aperçoit qu'on garde tout un tas de trucs
Mais ça, c'est des choses concrètes, quoi, qui... Voilà, bon, ça vient petit à petit, mais c'est... J'ai du mal. J'ai du mal parce que je ne sais pas par où.
Vous êtes sûr que vous ne savez pas du tout pourquoi vous avez du mal? Parce que moi, je vois dans le fait que vous.
Justement, je voulais avoir votre avis.
Mais moi, je vois pas. Ouais, mais moi, j'entends en tout cas que vous avez du mal à vous lever, à vous laver, à faire attention à vous. Et donc, j'ai l'impression que cette maison, l'intérieur de cette maison, tout ce qui encombre cette maison, elle vous encombre vous aussi. Et que tant que vous n'aurez pas pris la décision de vider cette maison sans le moindre sentiment ou la moindre culpabilité de dire je jette des choses qui ont appartenu à mes parents, je jette des choses... Mais non, en fait, vous jetez des choses qui ne serviront plus à vos parents. Vous jetez des choses qui... finalement ne vivent non que d'importance et de valeur parce que vous y apportez une certaine valeur. Or, ces choses-là, votre mère n'y pense plus, elle est ailleurs, votre maman, elle est partie sur d'autres rails.
Tant qu'elle était là, je n'aurais jamais fait devant elle.
Ça,
là,
c'est
je...
normal, ouais, c'est normal.
Là, oui, bien sûr. Mais, ça vient, mais moi, ça manque. Du coup, tout ça m'encombre l'esprit.
Mais oui, ça vous encombre.
Moi, ce qui me crée souci, je comprends. Je ne sais pas par où commencer, si vous voulez, par le jardin. Et puis, moi, je ne comprends pas. Du coup, moi, je ne me regarde plus dans une glace. Et pourquoi j'ai ce souci de prendre une douche? Mais c'est un... Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que le chemin est encombré pour prendre la douche? Est-ce que cette salle de bain...
Non, c'est une douche à l'italienne.
D'accord. La salle de bain, on n'étouffe pas la salle de bain dans la salle de bain parce qu'il n'y a pas d'affaires?
Non, au contraire. Et là, j'ai jeté tous ces produits de beauté. C'est ma sœur, hein, j'en ai parlé. Enfin, vous voyez, ça vient, ça se décante un petit peu, si vous voulez. Mais enfin, bon, je comprends pas pourquoi j'ai cette réticence à...
Ben parce que je crois que vous êtes... Mais vous êtes usé, là. Vous savez, je pense, Bertrand, que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup donné. Et à juste titre...
Moi, je m'en rends pas compte.
Mais cet état-là que vous avez aujourd'hui, il y a bien une origine à cet état.
Mais ça dure quand même... ça fait un moment, quand même.
Mais oui, ça fait un moment, Bertrand.
Je n'ai plus qu'à m'occuper de moi. Et c'est pour ça que vous êtes le premier à qui j'en parle, quoi. Moi, je dis, je vais m'en sortir tout seul. Donc, je me fais des petits trucs. Allez, tu te lèves, tu fais... Enfin, j'ai jamais été comme ça. Mmh. Et là,
Alors,
je me lave quand même. Je mets à l'ancienne, aux gants, et hop. Ouais. Et puis voilà. Et puis après, bon, je fais ça, et puis je laisse, et puis je range ça. Et puis après, oh non, je... Alors je lave, je fais des lessives, hein, les lessives, machines, nourriture, ça va, quoi. Mais quand même, c'est ménage, hygiène, et puis alors, après, je range pas, il y en a partout, quoi. Il y a quand même trois chambres, c'est grand, quoi. C'est, moi, à Paris, j'habitais dans des tout petits trucs, il fallait être plus rationnel, et plus, comme vous dites, plus, un peu minimaliste, hein, pour pouvoir évoluer, et là c'est, c'est nouveau,
ça fait 8 mois.
Quand ma mère était là, non. Oui, c'est ça.
Mais bon. Justement, alors vous voyez, vous arrivez bien à identifier les périodes et les moments où ça a basculé. Tant que votre mère était là, vous étiez dans une dynamique vraiment de vous occuper d'elle et de tout faire pour elle. Du jour où elle est partie, il y a eu pas un relâchement du tout, mais ce sont vos nerfs qui ont lâché. C'est-à-dire que vous étiez comme un robot là quand vous occupiez de votre maman.
C'est un peu ça hein, que j'ai dit au médecin. J'ai dit j'ai l'impression d'être comme un zombie.
Mais ouais. Et voilà. Du jour où elle n'a plus été là.
Je ne plaignais pas. Hein, j'étais pas plus malheureux que ça. J'étais même soulagé qu'elle soit placée. Mais moi, il m'a dit mais vous n'exprimez aucune émotion. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez
Vous en exprimez.
J'avais pas d'émotion, j'étais vidé, quoi. C'était comme un grand vide. Et j'ai dit, moi, je vais m'en sortir. Voilà. Mmh.
Mais déjà, vous en avez exprimé de l'émotion ce soir, là.
Oui.
Parce que.
J'ai hésité à appeler, mais j'ai. Bon. J'ai hésité à appeler mon médecin, mais j'ai dit, je vais. Ça me gêne. C'est-à-dire que ça me gêne quand même un peu.
Pourquoi cela vous gêne ?
J'ai jamais été comme ça. C'est un peu c'est de la pudeur, quoi. Je
bien
cache.
Sûr,
alors, je pense que ma soeur se rend compte quand elle vient. Elle voit que. Alors, je dis, j'ai pas fait le ménage. Je suis là en jogging ou en peignoir. Enfin, moi. Mais bon, elle n'en parle pas. Elle est un peu plus présente. Elle est plus présente auprès de ma mère. Et puis. Ouais, mais moi, je ne formule pas. Elle ne m'a pas. Forcé, parce que c'est pas non plus, c'est pas dramatique, et je suis pas. Et quand je suis au contact avec les gens, tout de suite, je retrouve quand même de la fierté. Ben je m'habille, je participe.
Parce qu'il arrive qu'il y ait des journées où vous ne vous habillez pas, où vous restez dans la maison comme ça.
Ah oui, ouais. Oui, voilà. Hier et aujourd'hui, non, quoi. Hier, j'ai tendu la pelouse, parce qu'il y avait, il pleuvait pas, il y avait une éclaircie, quoi. Donc j'étais en sœur. Eh ben en temps normal, je serais allé prendre une douche quand même après. Et là, je dis, je suis fatigué, je la prendrai après, puis après, puis après. Et je me suis couché dans des draps propres qui venaient d'être lavés. Mais voilà. Alors, c'est vrai que je suis seul, alors, mais donc, je sais que, bon...
Mais non, mais si vous appelez ce soir, Bertrand, c'est quelque chose qui vous gêne. On sent que c'est quelque chose qui vous encombre. Alors j'y vois bien évidemment un lien avec cette maison qui est encombrée, hein, qui est dans laquelle vous devez vous n'étouffez pas visiblement, mais il y a beaucoup trop de choses qui vous gênent dans cette maison, en tout cas qui vous encombre, même si vous n'étouffez pas. Mais je pense que vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul, Bertrand. Ça, il va falloir que vous le mettiez vraiment dans la tête. Et ça n'est pas capituler et être quelqu'un de faible que de demander l'aide de qui que ce soit, mais de votre médecin. Je pense que c'est d'abord une première solution sage solution, parce que je pense que, alors moi je pense que vous faites une petite dépression, hein, parce que ça y ressemble vraiment. L'envie de rester couché, l'envie de ne pas s'habiller, l'envie de remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Tout ça, ce sont des petits signes que ça ne va pas fort. Il y a une déperdition d'énergie qui ensuite vous emmène sur une sous-estime de vous. Parce que ce soir, lorsque vous me parlez de vous... Vous me dites, voilà, je, Je fais ça, mais je remets toujours à plus tard ce que je dois faire. Pour la maison, pour la maison comme pour vous. Oui, mais vous cachez. Vous cachez. Mais la première personne à qui vous n'arrivez pas à le cacher, c'est à vous. Et c'est cette personne-là qui compte aujourd'hui. Parce qu'autrement, vous n'appelleriez pas. Il y a une gêne aujourd'hui de vous par rapport à vous. Et
Ça s'amplifie, hein, ça s'amplifie.
Mais oui, et puis il va falloir arrêter ça. Va falloir arrêter ça. Et vous avez bien fait d'appeler ce soir. Vous avez bien fait parce que qu'est-ce que je vais vous dire, moi ? Je vais vous dire que il faut maintenant pas vous projeter dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, et vous mettre martel en tête que vous allez vider cette maison en tant de temps. Vous voyez, il faut pas que vous mettiez la pression.
Non, il n'y a pas de compteur qui tourne. Hein,
non, mais ce qu'il faut, faut, par contre, en premier lieu, Bertrand, c'est que vous vous occupiez de vous en premier lieu. C'est-à-dire qu'avant de vous occuper de cette maison, pourquoi ? Parce que quand vous serez occupé de vous, quand vous serez rétabli, en tout cas quand vous aurez rétabli un équilibre, votre équilibre, vous verrez que tout sera beaucoup plus lumineux et beaucoup plus facile pour vous quant à faire du vide dans cette maison, quant à investir cette maison complètement, parce que on sent pour l'instant que vous ne l'avez pas investi cette maison. Alors ce qui est plutôt très positif quand même, je vous parle quand même des choses positives, c'est que vous avez quand même pris des décisions très importantes. C'est de rester ici, de faire votre vie ici, et donc de vous approprier cette maison, ce lieu, qui a été aussi le lieu de votre adolescence. Donc,
je suis revenu dans ma... Oui, je suis très bien dans ma... J'adorais Paris, mais bon, voilà. Ici, c'est... Voilà, je retrouve mes racines, voilà, avec ou sans
vous avez
parents.
Vous avez quelques potes, là, dans
le coin ? Là, c'est difficile, quoi.
Là en ce moment, oui, c'est difficile, mais autrement. Il y a des gens qui vous connaissent, là, où vous êtes.
Oui.
Il y a des gens qui attendent sans doute que vous fassiez signe, que... Vous vous manifestiez.
Mais on se voit. Mais quand, justement, je vais vous dire, quand même, c'est pas la première fois que j'ai des phases comme ça. Hein. J'ai 63 ans, donc j'ai eu une vie avec des hauts et des bas. Et à partir de 45 ans, j'ai eu des phases. D'alcool et de dépression. Donc, j'ai fait trois cures, j'ai vu des médecins, et finalement, ils m'ont dit, mais vous n'êtes pas vraiment dépressif, vous n'êtes pas vraiment alcoolique. Et en fait, un psychologue m'a dit, mais vous êtes bipolaire. C'est-à-dire que cette période-là, c'était avec des périodes de haut et de très haut, de formidable, avec une énergie, avec même, ça m'a joué des tours aussi, des dépenses excessives, des trucs.
Est-ce qu'on vous a prescrit qu'on vous a prescrit à l'époque et vous les avez pris?
J'ai les pris jusqu'à ce que tant que j'étais à Paris, puis dès que je suis venu là, j'ai pas. Alors qu'il m'avait dit que c'était à vie, hein. C'était réguler. J'en ai parlé à mon médecin traitant, mais bon, qui m'a reproduit les ordonnances d'avant, mais c'est pas.
Est-ce que vous les prenez, ces médicaments ?
Ah, c'est fini ? Ah non, non, non. C'est
non.
Fini.
C'est bon, voilà. Il va peut-être falloir retourner voir le médecin. Mais oui, c'est ça.
J'ai pris contact avec un spécialiste. Des psychiatres ils disent on ne prend que des ils sont débordés, on ne prend que des patients.
Non mais Bertrand, à partir de maintenant, si vous avez vraiment envie de vous en sortir, en plus vous paraissez totalement lucide sur votre situation, c'est-à-dire que vous avez la chance d'avoir pu mettre un diagnostic, des mots sur ce dont vous souffriez. On vous a dit que vous étiez bipolaire, donc vous souffriez donc de troubles de l'humeur. On vous a prescrit des médicaments à l'époque qui, visiblement, vous en ont sorti. C'est ce que vous venez de me dire.
Oui, à l'époque, oui, j'étais en couple, je travaillais. Ça a stabilisé un peu.
Ça vous a stabilisé. Voilà. Alors, pourquoi déjà, il faudrait recommencer par là. Hein ? Recommencer par retourner voir votre médecin traitant et lui dire que vous avez... pas lui demander « qu'est-ce que j'ai, docteur ?» Lui dire que vous souffrez, là, à nouveau, d'un trouble de l'humeur que vous connaissez bien. Hein, parce que...
Là, je sens que c'est pour ça que je vous ai appelé. Parce que je, quand, même, quand j'avais ces phases de haut et, puis, et après de descente, là, je sens que je suis... au départ, je me suis dit, bon, c'est le contre-coup, voilà, c'est le grand, enfin, le contre-coup du, de m'être occupé
alors,
de maman.
Il y a sûrement un contre-coup, hein, Bertrand.
Mais j'ai dit, ça, là, je m'étais dit, je vais m'en sortir tout seul. Et,
mais on
ne
peut,
là,
on peut pas s'en sortir
que...
tout seul. On ne peut pas.
Non.
Non, non, on ne peut pas.
J'ai peur, j'ai dit, bah, ça va faire encore comme les autres fois. Et puis.
Sauf voilà. Que là, Bertrand, si vous ne vous occupez pas de vous, ça peut prendre des proportions vraiment très, très embêtantes. Donc, vous avez bien fait d'appeler ce soir. Mais à partir de maintenant...
Mais
à partir de maintenant, il va falloir que vous preniez des décisions. Comme je vous l'ai dit, pas prendre 10 décisions, 5 décisions. La première à prendre, c'est de vous occuper de vous. Et vous occuper de vous, c'est ensuite, vous verrez, tout suivra, mais naturellement. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez rétablir... En plus, vous avez la chance, Bertrand, de savoir comment rétablir les choses. Vous savez que vous souffrez de troubles de l'humeur. Vous savez, aujourd'hui, ça n'est pas une honte. Hein. On a fini par trouver hein, qu'une grande partie de la population, en tout cas une partie de la population, souffrait de ces troubles de l'humeur. Aujourd'hui, il y a des traitements qui correspondent parfaitement pour ces troubles de l'humeur et qui stabilisent ces troubles de l'humeur. Ce qui fait que aujourd'hui, si je dois donner une image de vous, c'est Bertrand qui m'appelle, qui me dit « Olivier, ça ne va pas, je ne me lave plus, je suis dans une maison où j'entasse tout, ou en tout cas je n'arrive pas à jeter, je culpabilise, je ne vais pas très bien parce que je ne me lave pas, je remets à plus tard tout ce que je devrais faire là. » Alors que je sais pertinemment bien que la béquille qu'on m'avait donnée il y a quelques années et qui m'a sorti de l'ornière, eh bien, je l'ai mise là, elle est de côté, je ne sais plus très bien où je l'ai mise, mais si je vais voir le médecin demain et que je lui dis, voilà, docteur, je sais ce que j'ai, voilà, et voilà ce qu'on me prescrivait à l'époque, le médecin, il va savoir s'il y a une évolution, vous voyez, s'il doit, peut-être il va vous demander de faire une prise de sang, je ne sais pas, mais en tout cas, il va peut-être...
Si, pour voir après
le dosage.
Le dosage, voilà. Voilà.
Mais vous voyez, aujourd'hui, il y a vraiment... Il y a vraiment voilà, vous savez, ça n'est pas inhumain, c'est pas... Voilà, c'est pas une honte hein, de souffrir...
Moi, c'était un peu un frein, quoi.
Mais
un
oui,
frein
mais parce que vous êtes un peu orgueilleux.
C'est pour ça que je me suis dit, je vais appeler Olivier... pour voilà, sous le sceau de l'anonymat, pour avoir son avis. Quoi.
Et moi, je pense que vous avez tout en main.
Je l'ai formulé quand même, même sous le sceau de l'anonymat.
Mais qu'en pensez-vous de commencer par aller voir votre médecin
Mais je le connais bien. Mais bon, il avait l'image. Moi, j'étais la béquille plutôt de. C'était le médecin de famille de ma mère.
Oui, quoi. Mais ça, c'est dans votre. Vous savez, c'est dans votre tête.
Mais j'avais dit
ça.
Quand même que j'étais fatigué. Il m'avait donné des anxiolytiques. Mais c'est moi, les anxiolytiques, c'est pas. Enfin, c'est pas ça. Il avait reconduit. Au départ, quand j'étais venu de Paris, la Dépakote.
Oui, le Dépakote. C'est un médicament de traitement de l'humeur. Vraiment, le traitement
de l'humeur.
C'était efficace pour vous, le Dépakote?
Moi, je m'en rendais pas compte, parce que ça... Enfin, c'est pas un effet immédiat, c'est pas...
Non, ça
c'est
met,
pas un
ça
euphorisant,
met 3 semaines,
ni un anxiolytique.
Non, c'est un stabilisateur.
Voilà, quoi. Et après, bon, on avait pu parler, lui... Bon, j'en parlais pas. Quand ma mère, ça allait de pire en pire et qu'on trouvait pas de. On n'arrivait pas quand même à trouver un placement et tout ça. Ça m'a angoissé, quoi. C'est là. Ouais. Je déployais mon énergie pour ça. J'avais de l'énergie. Et il m'avait donné un anxiolytique.
Mmh. Alors là, écoutez,
Bertrand. Je suis pas anxieux. Mmh.
Non. Vous avez traversé une période compliquée. Souvent, vous savez, dans ces troubles de l'humeur, il y a des éléments déclencheurs, hein, qui sont souvent des chocs émotionnels. Vous avez cumulé un choc émotionnel, c'est de voir votre maman malade et puis partir en EHPAD, même si ça vous a soulagé à un moment. Le choc émotionnel, c'est que vous vous êtes retrouvé seul dans cette maison et que d'un seul coup, c'était le grand vide. Et puis, il y a eu cette fatigue. Il y a cette fatigue aussi, cette usure qui s'est accumulée tout le long de chaque jour où vous vous êtes complètement oublié. Alors, aujourd'hui, parce qu'on n'a plus qu'une minute trente, aujourd'hui, Bertrand, vous savez exactement où est cette béquille. Vous avez un médecin qui vous connaît bien, et le médecin, vous savez, s'il vous connaît depuis longtemps, il ne vous juge pas, Bertrand. Il est là, il va être très, très heureux de vous voir arriver et de lui dire, il va être très heureux de vous entendre lui dire, moi ça va pas en ce moment, ça serait bien qu'on reprenne un cycle de traitement.
Tout le parcours, hein, de voilà.
Ben voilà, mais votre
médecin. Si je vous ai parlé.
Alors vous me promettez que vous allez voir votre médecin et que vous allez prendre ce traitement. Je vous préviens, je vous lâcherai pas. Hein. Maintenant j'ai votre numéro de téléphone. Dans 15 jours, Natacha va vous rappeler et on va faire un petit check de voir au moins où vous en êtes, d'accord ?
Sauf que c'est pas mon prénom, c'est un prénom.
Non, mais j'ai votre numéro. Hein ? D'accord ?
Oui. Bon. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Ça m'a fait du bien. Il fallait que je le dise, que je le formule.
Passez une bonne nuit déjà. Et puis,
je vous remercie.
Prenez-moi bien au sérieux parce que dans 15 jours, je vous rappelle.
D'accord. Oui.
Bonne soirée, Bertrand.
Je vais l'appeler.
Bonne nuit. Bonne nuit à vous.
Au revoir.